Voilà, on est arrivé dans notre parcours dans Ésaïe au chapitre 11. Et ça fait depuis un certain temps que l'on parcourt Ésaïe, avec des petites pauses de temps en temps, parce que c'est long, hein, 66 chapitres. Et on est arrivé à ce chapitre, et dans ma Bible, j'ai le titre pour ce chapitre, Le Messie et son règne. Bon, ces titres-là ne sont pas dans le texte, mais ça aide à savoir quel est le sujet. Donc j'ai mis Le Messie et son règne. Mais le mot-clé pour ce matin, on va voir dans ce texte, c'est l'espérance. Ça, c'est un mot très très fort dans la Bible, notre espérance. Alors, je vais lire ce texte et après, on va le regarder un petit peu plus dans les détails, mais à la différence de certains textes, ce n'est pas si évident de le faire dans l'ordre. On va le faire à peu près parce que c'est un texte vraiment prophétique et comme on a souvent dit, dans les textes prophétiques de la Bible, on mélange les différents horizons. Donc, on peut avoir quelque chose qui est plus proche, quelque chose qui est un peu plus loin, quelque chose qui est encore un peu plus loin. On l'a souvent comparé d'ailleurs à un paysage de montagne en Suisse, par exemple, où à l'horizon, on voit toute une chaîne de montagnes, mais en réalité, quand on s'approche, on voit qu'il y a des profondes vallées entre les montagnes, entre les sommets des montagnes. Donc ça, c'est la particularité d'un texte prophétique. Mais je vais d'abord le lire et puis on va voir de quoi il s'agit. Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage et leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se refera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Chinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. Et il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident et pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en sept canaux, on le traversera avec des souliers. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a une pour Israël. Le jour où il sortit du pays d'Égypte. Bravo si vous avez tout compris dans cette lecture, qui n'est pas évident du tout, parce qu'on a, comme j'ai dit, on a l'impression qu'il saute du coq à l'âne. Mais c'est peut-être pas très respectueux de le dire comme ça pour un prophète, mais finalement c'est un petit peu ça, donc je répète ce que j'ai dit, parce qu'il parle de différents horizons au cours de la même prophétie. Exemple. Donc là, on va faire un premier parcours de ce chapitre. Du verset 1 à 5, il est question d'un roi meilleur que celui qui vivait à l'époque d'Ésaïe. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, que Ésaïe avait affaire au roi Akaz. Ésaïe lui a dit, fais confiance à Dieu. Et lui, il a fait confiance aux Assyriens. Avec des conséquences terribles, qu'à la fin, le peuple s'était détourné de Dieu, a été exilé, le royaume du Nord déjà en Assyrie, le royaume du Sud à Babylone. Donc voilà, il parle d'un autre roi qui va venir, qui va naître du tronc ou de la souche d'Isaïe. Donc Isaïe, c'était le père de David, donc c'est une façon de dire. Donc il y aura un autre dans la dynastie de David qui va venir par la suite, qui sera le roi. Maintenant, les personnes qui ont reçu cette prophétie, on peut dire, chouette, à la mort d'Akaz, il y aura un autre roi qui sera bien meilleur. Ils ne savaient pas, ceux qui avaient reçu cette prophétie, c'était quand même plusieurs siècles après, parce qu'il s'agit bien sûr du Messie de Jésus. Mais il faut parfois se mettre dans les chaussures des personnes qui avaient reçu. Ils ne savaient pas que ce serait dans plusieurs siècles que ça allait se passer. Donc voilà, c'est les versets 1 à 5, ce roi qui va venir. Ensuite, il parle d'une restauration édénique, ou paradisiaque, donc le retour du jardin d'Éden, en quelque sorte. Ça, c'est les versets 6 à 9. Il n'y aura plus de violence, les animaux vont vivre ensemble sans difficulté, même les enfants vont les conduire. C'est un retour en arrière vers Éden, si on veut. Mais à quel moment ça va se passer? Ésaïe lui-même donne des indications tout à la fin, au chapitre 65 et 66, donc je vais me permettre de lire parce que ça va être dans plusieurs années qu'on arrive à ça, à notre vitesse actuelle de parcours des Aïe. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le chapitre 65 et le verset 17. « Je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et on n'a pas le temps de tout lire, mais on saute jusqu'à la fin de ce chapitre, où il parle de ces nouveaux cieux et nouvelles terres, verset 25, « Et le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Donc, les mêmes mots que nous avons dans le chapitre 11. Donc là, il s'agit de cette nouvelle terre, les nouveaux cieux, dont il parle aussi au chapitre 66, pratiquement les derniers mots de son livre, chapitre 66, verset 22, « Car comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Donc, on vient de voir que la première horizon, ils auraient pu penser que c'était le roi suivant, mais en fait c'était plusieurs siècles après. Et après, le deuxième horizon, on n'y est pas encore. Hein. C'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre que Dieu va créer à la fin de ce monde. Et puis, le verset 10, il parle des nations qui se tournent vers Dieu. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, des nations se tourneront vers lui. L'apôtre Paul cite ce verset dans Romains 15 et le verset 12. Romains 15, verset 12. C'est un chapitre, Romains 15, où il parle de tout son ministère. Il dit qu'il veut annoncer Christ là où il n'avait pas été nommé. Il dit qu'il veut aller jusqu'en Espagne, en passant par Rome, pour apporter l'évangile. Et donc, comme j'ai dit, il cite ce verset dans ce contexte-là. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Et donc, il continue pour dire, voilà ce qui est en train de se passer, j'étais un peu partout, j'ai annoncé le Seigneur jusqu'en Illyrie, et je vais partir en Espagne, voilà. Troisième horizon, c'est maintenant. C'est l'annonce de l'évangile partout dans le monde. Hein, donc, les disciples de Jésus sont appelés à faire des disciples dans toutes les nations de la terre. Donc, le verset 10, c'est maintenant. Et puis, le verset 11 jusqu'au verset 16, il s'agit d'un quatrième horizon. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte. Il parle de Chinéa, donc c'est aussi c'est le nom ancien pour Babylone. Et il s'agit là du retour de l'exil. Il avait annoncé que s'ils ne se repentaient pas, ils allaient être déportés d'abord en Assyrie, puis à Babylone. Et maintenant, ils disent, mais ils vont revenir. Donc, tout ce qu'il dit n'est même pas dans l'ordre chronologique, on va dire. Mais tout ça fait partie du plan de Dieu. Il parle de ce retour en Israël comme, et là il regarde en arrière, comme la sortie de l'Égypte à la fin du verset 16. Il y aura une route pour ceux qui échappent de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Donc, c'est toujours le plan de Dieu qui se déroule, et jusqu'à là, les horizons étaient futurs, maintenant, ils renvoient au passé, en quelque sorte, pour dire, la même chose va se passer, et historiquement, c'est ce qui s'est passé. Les Juifs dispersés à Babylone sont revenus, donc on a 5 ou 6 livres bibliques, Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie, Malachie, qui parlent de cette époque où ils sont revenus de leur déportation, où ils avaient bien appris la leçon de leur idolâtrie, bien reçue, parce que si Jésus a critiqué surtout les scribes et les pharisiens pour plein de choses, la seule reproche qu'il a jamais fait à son peuple, c'était d'être idolâtre. Donc, ils avaient bien reçu la leçon par la déportation. Donc, voilà. C'est simplement pour dire que si on regarde ce chapitre, on a mélangé un roi qui va venir, l'évangélisation du monde maintenant, le retour de Babylone, et la fin du monde, les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Donc, c'est pour cela que ça nous... On ne peut pas dire que ça nous choque. On n'a pas l'habitude, en fait, de tellement mélanger les choses dans notre façon de réfléchir maintenant. On est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus chronologique. Mais pour les prophètes, donc, en quelque sorte, ce n'était pas grave. Tout était le mouvement de Dieu, son plan qui se déroule. Et c'est pour cela que j'ai pris... Je n'ai même pas annoncé tout ça. Voilà. J'aurais pu avancer pendant ce temps-là, voilà, les 4 horizons dont j'ai parlé. Un roi meilleur qu'Akaz, la restauration édénique, qui semble pouvoir se réaliser seulement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, toutes les nations se tourneront vers lui, et le retour de l'exil. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il y a cette prière. Paul prie pour les Éphésiens. Et il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et je trouve cette prière extrêmement intéressante, parce que nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour bien comprendre, que nos cœurs soient illuminés pour comprendre toute cette espérance. Et cette espérance, c'est quelque chose de vraiment très important. J'ouvre une page de pub, mais parce que c'est dans le cadre de cette prédication que ça tombe bien. Le samedi 1er avril, j'organise, parce que je suis responsable de ce réseau, le réseau évangélique et sciences humaines, donc nous avons toute une journée d'études, avec le titre « Où est passé l'avenir ?» L'espérance en sciences humaines. Donc c'est à la rue de Sèvres, de 9h à 17h. Malheureusement, ça tombe le même week-end que le congrès France Mission, mais moi j'avais fixé la date le premier, il y a bien des mois, donc je ne pouvais plus le changer. Mais je voulais quand même lire le petit texte qui se trouve sur ce flyer. Par rapport à l'espérance. L'espérance, sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Dictionnaire Larousse. Et j'ai écrit, l'espérance est un élément important dans la vie du chrétien. Dans le Nouveau Testament, le mot se retrouve plus d'une cinquantaine de fois. L'apôtre Pierre a écrit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. 1 Pierre 1, 3. L'espérance motive le chrétien à bien vivre sa foi tout au long de sa vie. Mais l'espérance semble une denrée rare dans le monde contemporain. D'autres mobiles, tels que la crainte d'un avenir catastrophique, semblent constituer un fondement plus solide pour la réflexion et l'action. D'autres prônent tout simplement la nécessité de vivre pleinement dans l'ici et le maintenant. Donc on aura 4 interventions, une maître de conférence sur la littérature, un autre sur l'écologie, qui a son doctorat dans l'environnement, une diplômée de sciences pour parler de politique, et un professeur de théologie. Donc voilà. Une belle journée sur l'espérance. Mais quand j'ai demandé à chacun de ces intervenants, notamment en matière d'écologie, littérature et de politique, est-ce qu'on parle d'espérance? Ils ont tous dit, on n'en parle pratiquement pas. C'est plutôt les craintes qui poussent les gens à l'action, par exemple pour l'écologie. Ce sont les craintes. Qu'est-ce qui va se passer si on n'agit pas? Il n'y a pas d'espérance en quelque sorte. Et c'est la même chose en politique et en littérature. Donc ça va être un défi pour nos intervenants d'essayer de voir la place de l'espérance dans la Bible par rapport à ces disciplines des sciences humaines. Et je pense qu'en tant que chrétien, on a quelque chose à apporter. Donc, qu'il illumine nos yeux. Et je vais revenir une deuxième fois sur le texte. Pour dire que je vois deux éléments, deux aspects de cette espérance. D'abord, c'est le règne du Messie. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, et on va le dire assez rapidement. Le verset 5, sa justice et la fidélité. C'est un règne de justice et de fidélité. Beaucoup de gens dans notre monde qui pensent qu'ils vivent des injustices. Mais là, c'est une règne de justice. Ce sera un règne avec des relations de paix. Donc, illustré justement par ces relations entre les animaux qui sont actuellement prédateurs et ceux qui sont plutôt la proie. Donc là, ce serait paisible. En plus, ils vont être soumis aux êtres humains, et ça c'est Genèse 1, Et le psaume 8, qui part du fait que l'homme est appelé à dominer sur la terre, et l'exemple qui est donné, c'est que même un lion va être conduit par un petit enfant. Et également le fait qu'il y a le renversement de la situation de Genèse 3, où c'est le serpent qui est à l'origine donc du mal, et l'enfant va pouvoir toucher la vipère, mettre son main dans l'antre de la vipère, sans que cet animal lui fasse du mal. Donc, c'est les relations paisibles au sein de la création. Il y aura donc, ma traduction disait, ni tort ni dommage. Le second 21, le sommaire dit, ni mal ni destruction. Donc, c'est difficile, hein, donc, d'imaginer. Il n'y aura que le bien, que l'édification. Je pense qu'on ne se rend pas compte à tel point. Dans notre monde, le mal est partout, il faut être suspicieux, méfiant. Pourquoi, par exemple, bon, c'est un exemple que j'ai souvent donné, pourquoi il faut acheter un billet de train? Parce que dans un monde parfait, s'il y a argent, ça c'est autre chose, mais dans un monde parfait, chacun paierait sa place, pas besoin de justifier parce qu'il n'y aurait pas de mensonge, hein, par exemple. Pourquoi un ticket de caisse au supermarché? Parce que tout le monde paierait, et s'il y avait un problème, bon, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de problème avec le produit, mais enfin, on changerait tout de suite, parce qu'il n'y aurait pas de mensonge. On se rend compte que les petits gestes de la vie quotidienne montrent à quel point le péché est là, continuellement. Donc il n'y aurait ni mal ni destruction. Verset 10. Tout le monde connaîtra l'Éternel. Pardon, c'est le verset 9. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Non. Il n'y aura pas besoin de dire à quelqu'un connaît l'Éternel, parce que tout le monde le connaîtra, au moins ceux qui sont dans ce paradis, les sauvés. Et les nations seront de la partie à côté du peuple juif. Donc là, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, et Paul et les apôtres ont bien compris cela, et on le voit dans le livre des Actes, que l'Évangile, c'est pour le monde entier. Donc, c'est ça, notre espérance, ce règne. Parfait. Éternel. Et la deuxième chose qui est mise en avant, c'est que le règne est un règne parce qu'il y a un roi. Et le Messie veut dire la personne qui a reçu une onction. Et c'était surtout, il y avait d'autres sens de cela, mais l'usage primordial, prioritaire de l'onction, c'était le roi qui recevait l'onction. Donc on peut dire presque dire que Messie est synonyme de roi. Et on l'a chanté tout à l'heure. Si vous n'étiez pas d'accord, vous avez quand même chanté Christ est roi. Parce que Christ, ça veut dire le Messie. Christ, c'est simplement le grec pour l'hébreu, le Messie. Et vous avez chanté Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Donc, le Messie est le roi. Ça tombait bien. On ne s'est pas mis d'accord. Mais le Seigneur a bien conduit les choses pour le choix des chants. Et donc, ce qui est super, c'est que ce règne sera autour de Jésus, qui incarne déjà sur la terre la sagesse et le discernement. Hein, donc je reviens verset 1 à 4. Le conseil et la puissance. Excuse-moi de la faute de frappe. Il connaît l'Éternel et la crainte de l'Éternel. Il va, en tant qu'homme, il va vivre cette crainte de l'Éternel sur la terre pour nous montrer la voie. Il jugera avec droiture. Il ne faut pas oublier que il y a deux usages du mot tribunal, en fait, dans la Bible. Il y a tout un courant comme quoi nous sommes devant Dieu qui nous juge d'après nos actes, et là, on est les accusés. Mais il y a un deuxième courant par lequel ceux qui appartiennent au Seigneur font appel à Dieu pour qu'il nous protège, et là on est les plaignants en quelque sorte. Et il faut savoir dans quel texte quoi il s'agit, il ne faut pas se tromper de texte. Et ici, on est content qu'il y a un jugement juste, parce que c'est la protection, justement, dans ce texte, des pauvres, des malheureux sur la terre. Alors je reviens pour une longue conclusion, parce que souvent quand on est dans Ésaïe, on voit d'abord le texte et on essaie après de voir en quoi ça peut nous toucher aujourd'hui, nous qui vivons à l'époque de la Nouvelle Alliance. Donc j'ai repris ce thème de l'espérance et on va essayer de voir un petit peu en quoi ce thème de l'espérance peut nous parler encore aujourd'hui. Donc je me permets de relire ce verset dans Éphésiens 1, parce que c'est vrai encore pour nous aujourd'hui, hein. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et j'ai plusieurs aspects de cette espérance, plus d'une cinquantaine de fois, hein, j'ai lu tout à l'heure, 54, si vous voulez le compte exact. 54 fois dans le Nouveau Testament, le mot espérance. D'abord, c'est l'espérance de la vie éternelle. Je vais lire les versets, Actes 23, 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens, qui ne croyaient pas à la vie éternelle, et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Et puis en écrivant à Tite: Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Parfois, ça vaut la peine de l'arrêter un moment. De temps en temps, je ne le fais pas toutes les semaines, loin de là, mais de temps en temps, la veille d'une prédication, j'utilise ma carte du Louvre et je vais au Louvre. Parce que je trouve que là, c'est calme. Je me mets devant un tableau ou quelque chose pour un peu méditer par rapport à ce que je vais dire le lendemain lors de la prédication. Donc hier matin, j'étais au Louvre et je suis allé voir la partie sur l'Égypte antique. Beaucoup d'artefacts, d'objets, venus d'ailleurs à peu près de l'époque où Joseph était en Égypte. Hein. Ça me touche encore plus hein, parce qu'on connaît ces histoires. Et il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, dans un sens, l'humanité de ces personnes. Et il y avait beaucoup, beaucoup de petites statues de couples. Ça m'a frappé. Parce que ce soit le pharaon, ou le trésorier, ou le scribe, ou etc., etc., il était là, et sa femme était assise à côté. Donc, ça m'a touché, cette humanité. Mais l'autre chose, c'est aussi à quel point ils s'inquiétaient de l'au-delà. Et donc, dans les enterrements, ils mettaient des objets pour essayer d'aider la personne à survivre, des petits bols de nourriture, des objets personnels, etc. Donc, c'était vraiment une crainte de l'au-delà. Et je me suis dit, mais nous, on a cette espérance vivante de l'au-delà, de la vie éternelle. Et ça change beaucoup de choses dans notre vie, comme on va voir. Donc, la première chose de cette espérance, c'était déjà dans Ésaïe, hein, donc c'était cette espérance de l'éternité pour nous qui sommes sauvés. La deuxième chose que j'ai vue dans le Nouveau Testament, en examinant les 50 versets, c'est un peu comme dans Ésaïe, il y a le règne du Messie, mais le Messie. Et même dans l'au-delà, dans la vie éternelle, on va glorifier et adorer Jésus. Et dès maintenant d'ailleurs, Colossiens 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, soit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là encore, ça rejoint ce que Olivier disait par rapport à la gloire. C'est Christ en nous. Ce n'est pas simplement une philosophie, une croyance, une idéologie, c'est une personne, c'est Jésus, en nous. Et dans la salutation au début de 1 Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. C'est marrant qu'on en a fait 1 Timothée, je ne vais pas relever ça, cette expression. Jésus-Christ, notre espérance. Ça tourne autour de la personne, ce qu'il a vécu, ce qu'il a acquis à la croix pour nous. Il nous attend en quelque sorte, il va nous préparer une place, hein. Il a dit dans l'évangile de Jean. Et en vue de cela, les versets suivants reviennent vraiment à notre époque maintenant. Ce qui m'a toujours touché dans le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y a pas, que je sache, j'ai jamais trouvé en tout cas, il n'y a pas un seul texte qui parle de la fin du monde, du retour de Jésus, sans que dans le même texte, ils disent, donc vous, quelle vie devez-vous vivre maintenant à cause de cela? Il y a toujours les deux aspects qui sont mis ensemble. Il y a l'espérance future, donc cela a des répercussions sur notre vie maintenant. Il y en a plusieurs. Donc là, j'ai mis plusieurs textes sur la même page. Première chose, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc c'est la sanctification, on désire être pur à cause de cette espérance, parce qu'en fait, puisqu'on va vivre dans la pureté absolue pendant toute l'éternité, cherchons maintenant à vivre dans cette pureté. Deuxième chose, Romains 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que nous avons cette espérance, nous avons d'autres valeurs que ceux qui sont autour de nous. Une ou deux fois dans ma vie, quand j'ai entendu quelqu'un dire, donc passons aux choses sérieuses, j'ai dit, ah bon, on va parler de l'amour de Dieu. Ça, ce sont des choses sérieuses. C'est vraiment ce qui est le plus important. Celui qui est le créateur de l'univers est amour. Donc, nous qui sommes les réconciliés avec Dieu, les sauvés, on cherche à vivre cet amour entre nous, malgré nos différences. Et c'est ça la force d'une église, d'une communauté où on sait vraiment de nous intéresser les uns aux autres et de nous aider les uns les autres. Troisième chose. Dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Dieu de l'espérance, pour abonder en espérance, veut nous remplir de joie et de paix. Paix par rapport à l'avenir, joie, parce que finalement, qui a le dernier mot de l'histoire? C'est Dieu. Et je me rends compte, et je m'inclus là-dedans, hein, je ne fais pas de reproches aux autres, je me fais des reproches à moi-même. Parfois, on regarde la société, on dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Ça va de mal en pire. On ne peut pas changer la société, mais nous, on peut vivre avec joie dans ces sociétés. Et c'est ça qui peut faire en sorte que d'autres disent, mais mince, il y a des gens qui ont de la joie, qui ont de l'espérance. Et parfois, je me dis que l'Église devrait changer de nom pour devenir une société anonyme, Sourcils Froncés SA. Comme si tout va mal. Mais c'est pas Sourcils Froncés SA, c'est l'Église de Jésus-Christ qui nous remplit d'espérance et de joie et de paix. Donc voilà, ça fait partie de notre sanctification. Et puis la quatrième verset, toujours dans les Romains, Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, de nouveau, se réjouir avec patience dans ce monde et de prier que le Seigneur nous donne d'être pur, d'aimer, d'être rempli de joie et de paix. Parce que c'est ça. Nous vivons déjà le royaume de Dieu sur la terre. Parce que Jésus est roi. Christ est roi. Et sur cette bannière, c'est ça que l'on vit. Et je reviens pour terminer à un verset que j'ai cité la semaine dernière, quand on a parlé de l'évangélisation. Et j'ai dit que l'évangélisation se passe surtout quand on nous pose des questions, Colossiens 4 et 1 Pierre 3. Je reviens vers 1 Pierre 3. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc si les gens voient pas notre comportement de pureté, d'amour, de joie et de paix, que nous vivons dans l'espérance, ils vont dire, mais comment ça se fait que malgré tout vous vivez avec ça? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui ne sent pas concerné par cela? Moi en tout cas, je me sens concerné. Parce que finalement c'est cela que le Seigneur nous demande de vivre à sa gloire. Et parfois on voit la sanctification comme étant l'obéissance qui demande un effort, et je suis sûr que parfois c'est un combat, c'est le bon combat, hein, c'est aussi biblique. Mais la motivation de ce combat qui va le rendre plus facile, c'est l'espérance. C'est l'espérance.